Chapitre 4, où l'on voit Chantecoq prouver qu'il est aussi fin psychologue qu'habile détective. Après avoir regagné la villa de Chantecoq et remercié Colette d'un serrement de main expressif, Jacques Bellegarde était remonté dans sa chambre. Assis devant sa table, la tête entre les mains, on eût dit que, condamné, vaincu par la fatalité, il n'en attendait plus que le coup suprême. Déjà loin, au très loin du monde, il n'entendit pas ouvrir sa porte, et il ne vit pas Chantecoq et Colette, qui, tous deux arrêtés sur le seuil, le contemplaient, l'un avec une expression de sincère compassion, et l'autre avec toutes les apparences de la plus anxieuse tristesse. Le détective prononça quelques mots à l'oreille de sa fille, qui aussitôt, sur la pointe des pieds, se glissa derrière un paravent placé à gauche de la porte. Chantecoq s'avança vers Jacques et lui dit d'une voix à la fois grave et affectueuse « Allons, mon ami, du courage !» Le reporter tressaillit, releva la tête. À la vue du grand limier, ses traits contractés se détendirent un peu, et d'une voix encore brisée, il murmura « C'est affreux, n'est-ce pas ?» Le grand limier interrogeait « Vous aimiez donc encore cette femme ?»« Non, répliquait Jacques, je ne l'aimais pas. Je suis même sûr de ne l'avoir jamais aimée. » « Alors, pourquoi ce grand désespoir ?» « Parce que j'ai la conviction que je suis cause de sa mort. » Chantecoq fit un signe de dénégation. Puis il ajouta, avec cette fermeté d'accent qui rendait si convaincante ses affirmations, « Mais j'ai la certitude, au contraire, que vous n'êtes en rien responsable de ce douloureux événement. Ah, si vous pouviez me faire partager votre conviction !» s'écriait Bellegarde, de quel poids serais-je soulagé ? Tout en s'asseyant en face du journaliste, le grand détective reprit. Étant retourné à l'hôtel d'Auteuil, tandis qu'on me faisait attendre dans son boudoir, j'ai appris au cours d'une conversation qui se tenait dans un salon entre Mademoiselle Bergen et plusieurs de ses amis, que Mademoiselle Desroches faisait un grand abus de stupéfiants. « C'est vrai, » appuyait Jacques. « Il se peut donc fort bien, » développait le limier, « qu'à la suite non pas de votre rupture, mais de la venue du fantôme dans sa maison, afin de calmer la véritable terreur qui s'était emparée d'elle et dont j'ai pu constater les manifestations. Mademoiselle Desroches a absorbé une dose trop forte de l'une de ses coutumières. » C'est fort possible, en effet, mais ce n'est pas certain. D'accord, mon cher ami, mais admettez cependant que mon hypothèse est des plus vraisemblables. Je l'admets. Parfait. Je n'ai pas terminé. Tout à l'heure, Ménardier, qui s'était rendu à Auteuil pour vous arrêter et auquel j'ai eu la satisfaction de jouer le bon tour que vous savez, a émis devant moi une autre hypothèse. Et je ne suis pas éloigné d'être de son avis que le décès de Mademoiselle Desroches était des plus suspects. Et il a même ajouté, et là nous ne sommes plus d'accord, qu'il vous soupçonnait fort de l'avoir assassinée. Moi ? Se révoltait Jacques. Et dans quel dessein aurais-je accompli un crime si abominable ? C'est ce que je lui ai demandé à ce cher Ménardier. Et que vous a-t-il répondu ? Ménardier prétend qu'après avoir dérobé ou fait dérober vos lettres, et redoutant que Mademoiselle Desroches ne donnât à la police certains détails qui n'eussent point manqué de favoriser votre arrestation, vous l'auriez supprimé à l'aide d'un poison subtil que vous auriez rapporté d'un de vos voyages en Extrême-Orient. Et il a déclaré qu'il allait adresser à son supérieur hiérarchique un rapport concluant à la nécessité absolue d'une prompte autopsie de votre prétendue victime. « Décidément, s'irritait le journaliste, Ménardier est la pire des brutes. »« Non, » ripostait Chantecoq, « Ce n'est certes pas un génie, mais ce n'est pas un sot. J'ajouterais même que c'est un excellent garçon. En ce cas, pourquoi, malgré tout ce que vous lui avez dit à mon sujet, s'acharne-t-il ainsi après moi ? Oh, c'est très simple. Ménardier est en ce moment dans l'état d'esprit d'un médecin qui, après avoir commis une erreur de diagnostic, s'entêterait par amour-propre à traiter son client pour une maladie qu'il n'a pas. Laissons-le s'enterrer jusqu'à la garde. Cette nouvelle accusation dont il vous charge ne peut que nuire à ses intérêts et profiter aux nôtres. Comment cela ? Parce que la lumière ne peut plus tarder à se faire. Et lorsque l'on saura, pour mener à la divulgation de la vérité, que vous avez consenti à vous laisser charger de tous les crimes de les Belphégor, et que moi, ainsi que je vous en ai donné ma parole d'honneur, j'aurais publiquement déclaré que sans votre héroïque silence et votre si encourageuse attitude, il m'eût été impossible de découvrir le vrai coupable, mais de quelle admiration, de quelle popularité serez-vous entouré ? Ce sera pour vous mieux que la vogue et le succès, c'est-à-dire la célébrité, le triomphe, et pour ma part, j'en serai profondément heureux. Rasséréné par les réconfortantes exhortations du grand détective, Bellegarde reprenait. Je ne saurais vous dire à quel point je suis touché de votre amitié, mais plus encore que tout le reste, je vous suis profondément reconnaissant de m'avoir permis d'espérer que je n'étais pour rien dans la mort de Simone. Mais ce n'est pas espérer qu'il faut dire, c'est je suis sûr. Alors, selon vous, c'est Belphégor qui l'aurait empoisonné, parbleu. Et par conséquent, dans l'intention d'augmenter les charges qu'il a déjà accumulées contre moi. Ben, c'est clair comme de l'eau de roche. Saisissant la main du détective, le reporter s'écria « Ah, monsieur Shancock, si je ne vous avais pas rencontré sur ma route, j'étais perdu, car seul je n'aurais jamais pu me défendre contre de si diaboliques machinations. » « Alors, s'écria le grand limier, j'ai bien fait de laisser ce brave Gautret vous introduire dans la salle des dieux barbares. Oh, je ne saurais trop vous en prouver ma gratitude. » Alors, plus d'arrière-pensée, plus de doute sur vous-même, plus de drame de conscience, lançait le roi des détectives. Non, puisque je vous sens près de moi, avec moi, ce qu'en est avec force le rédacteur du Petit Parisien. Puis il ajouta, permettez-moi cependant une question, je vous en prie. Si Belphégor, ainsi que vous tendez à le croire, a empoisonné cette malheureuse Simone, il faut qu'il ait eu des complices dans la maison. C'est tout à fait mon avis. Et c'est la première chose que je vais rechercher dès que j'aurai appris du baron Papillon le nom de la personne à qui il a cédé les mémoires de Ruggieri. Et joyeusement, Chantecoq s'écria, « Mais vous voyez que tout va bien, très bien, admirablement bien. Avec de moindres indices, j'ai débrouillé souvent des énigmes que d'autres avaient renoncé à résoudre. Car, voyez-vous, pour être bon détective, il faut être avant tout psychologue. Et vous l'êtes à un tel point, affirmait Jacques, qu'il doit être impossible de rien vous dissimuler. » Avec un bon sourire, le grand limier reprenait. « Oui, il m'est arrivé, en effet, parfois, de découvrir certains secrets. » Il s'arrêta. Jacques, embarrassé, attendait. Tout en le regardant avec bonté, Chantecloc reprenait. « Cette faculté, que je dois à la nature, m'a souvent permis d'éviter à ceux que j'interrogeais des aveux que leur timidité injustifiée les empêchait de me faire, et qu'il m'eût été infiniment agréable pourtant d'entendre de leur bouche. Monsieur Chantecoq, voulez-vous que je parle pour vous ? Soit. Allons-y. » Avec un accent de bonhomie affectueuse et charmante, le grand détective poursuivit. « C'est donc vous qui parlez. Je m'écoute, sourit Bellegarde, tout réconforté d'un grand rayonnement d'espérance. Le père de Colette scandait. Monsieur Chantecoq, j'aime mademoiselle votre fille. Jacques tressaillit. Ai-je été bon de vin ? M'interrogeait malicieusement le fin limier. Certes. Je vous avouerai franchement que je n'ai pas grand mérite, mais je n'ai pas fini. Et le détective dit, « Allez, c'est toujours vous qui parlez. Hein. »« Ah non, monsieur Chantecoq, s'écria Jacques en un juvénile élan, cette fois c'est mon tour. »« Bravo !» Et avec flamme, le jeune reporter déclarait, « Oui, j'aime mademoiselle Colette, et j'ai l'honneur, monsieur Chantecoq, de vous demander sa main. » Chantecoq, tout en l'enveloppant d'un regard de paternelle tendresse, répliquait « Mais je vous l'accorde d'autant plus volontiers, mon cher ami, que ma fille, elle aussi, vous aime. » Malgré, le journaliste se tut. Il lui semblait que s'il eût prononcé le nom de la disparue, toute l'atmosphère de rêve apaisant et délicieux dans lequel il vivait depuis quelques instants allait brusquement se dissiper. Chantecoq reprenait. Lorsque ma fille vous a vu ce soir partir si brusquement, si imprudemment, elle a éprouvé, je vous l'avoue franchement, une vive peine, car elle a cru que vous étiez encore attaché, plus que vous ne le pensiez vous-même, à cette malheureuse dont je suis le premier à déplorer la triste fin. Mais dès à présent, j'en suis sûr, elle a compris que vous aviez obéi uniquement au remords, que vous causez la crainte d'avoir encouru une grave responsabilité dans la fin de cette pauvre femme, et que seul ce sentiment, qui ne peut que vous honorer grandement, vous a dicté votre gratitude. Donc aucun nuage ne peut s'élever entre vous deux. Aucun mauvais souvenir ne viendra jamais embrumer le clair bonheur qui vous attend. Bientôt, Belphégor sera démasqué. Et un jour, un mutuel amour vous fera oublier les moments si douloureux que vous venez de traverser. « Oh, monsieur Chantecoq, s'écriait Jacques, je ne saurais vous dire à quel point vous me rendez heureux. Excusez-moi si dans mon émotion je ne trouve pas les mots qu'il faudrait. « Les mots ne sont rien, mon cher enfant, affirmait Chantecoq. Seul le cœur compte. » Et je crois connaître assez le vôtre pour être sûr qu'il est digne de battre à l'unisson de celui que vous avez su conquérir. Jacques, éperdu de joie, se jeta dans les bras du détective qui l'étreignit comme l'eût fait un père. Puis Chantecoq reprit gravement « En attendant, vous allez reprendre au plus vite votre personnage de Cantarelli, dans lequel vous êtes d'ailleurs montré si remarquable. » Bon, « c'est entendu, » acceptait le reporter. « Je vous consigne donc ici, » reprenait le roi des détectives, « mais formellement, hein, formellement, sous la garde de... » Et d'un geste affectueux, il désigna Colette, qui depuis un instant déjà était sortie de sa cachette et adressait à son fiancé un sourire qui était tout l'amour. Jacques s'en fut vers elle. « Mademoiselle, dit-elle, votre père vous dira... »« Oh, rien, répondit Colette, car j'ai tout entendu. »« Comment cela ? » ?»« J'étais là, derrière le paravent. »« Pas possible ! Je suis la fille d'un détective et... » Mais vous êtes l'être le plus adorable et vous serez la femme la plus adorée. » Leurs mains se joignirent, et ce fut le muet mais divin serment de ces deux âmes, désormais pour toujours unies dans la même foi, dans le même rêve. Chantecoq les contempla d'un air attendri, puis il murmura « Bon, maintenant je suis tranquille, il ne sortira plus de la maison. » Chapitre 5 où l'on voit le bossu et l'homme à la salopette travailler une fois de plus pour Belphégor. Vers minuit, l'homme à la salopette descendait de moto devant la masure où nous avons vu s'enfermer l'homme de confiance du baron Papillon. Il s'en fut tout droit tirer le nœud d'une corde qui battait à travers une étroite ouverture pratiquée au milieu de la porte. Le tintement d'une sonnette fêlée retentit à l'intérieur de la bicoque. Puis ce fut presque aussitôt un bruit de ferraille retentissant, et lui s'entrebâilla, laissant apparaître la tête de Luchner qui, d'un simple signe, invita son complice à entrer. L'homme à la salopette, tout en tenant à la main sa moto, franchit le seuil, appuya sa machine contre la muraille, et tandis que le bossu replaçait la chaîne et poussait les verrous, il regarda autour de lui. Il se trouvait dans une sorte d'atelier de mécanicien, uniquement éclairé par une puissante lampe électrique dont un abat-jour concentrait la lumière sur un établi qui supportait un compteur à gaz et tout un attirail complet de pinces, de tenailles, d'écrous et de clés anglaises. Tout de suite, l'homme à la salopette reprenait. « Il vient de se passer de graves événements. Quoi donc ? Ben, Jacques Bellegarde est vivant. C'est impossible, j'en suis sûr. Allons donc, je l'ai vu couler à pic dans l'Oise. Vous avez constaté aussi bien que moi qu'au bout de 5 minutes, il n'avait pas reparu à la surface. J'ignore comment il a pu se tirer d'affaire, mais aussi vrai que j'existe, j'ai pas eu la berlue. Je l'ai vu il y a 2 heures pénétrer dans l'hôtel de Simone Desroches. Oh, je l'ai fait ni une ni deux. J'ai vite couru chez un marchand de vin du voisinage et j'ai téléphoné à la police, près de laquelle je me suis fait passer pour un agent de service dans le quartier, que le gibier qu'elle recherchait se trouvait chez son ancien ami. Une demi-heure après, l'inspecteur Ménardier arrivait en auto avec 4 bourres, mais il était trop tard. Bellegarde les avait déjà mis. Le bossu mâchonna un juron de colère, puis il fit rageusement « Mais il faut absolument retrouver sa trace !»« C'est fait !» répliquait l'homme à la salopette d'un air triomphant. Après avoir téléphoné à la police, je me suis empressé de regagner les abords de l'hôtel. Je me suis mis en observation. J'avais peur que Bellegarde me quittât la maison avant l'arrivée de Larousse. Mais ces messieurs de la préfecture ont vite fait. Moins de 20 minutes après mon coup de téléphone, ils rappliquaient en auto. J'ai attendu un bon moment. Et pour moi, il n'y avait pas d'erreur. Ménardier et ses hommes avaient trouvé l'oiseau au nid. Sans doute était-il en train de le cuisiner. Et comme j'avais hâte de vous rejoindre, je m'en fus chercher ma moto que j'avais cachée sous un tas de broussailles dans le chemin des Lilas. Mais au moment où je débouchais dans cette ruelle, qu'est-ce que je vois ? Bellegarde, qui sautait dans une auto arrêtée juste devant la petite porte du jardin. Et je reconnais notre ami Chandcock, qui, de la main, faisait signe au chauffeur de filer. Alors la voiture a démarré aussitôt, et Chandcock est rentré dans le jardin. Je suis resté là un moment, caché dans l'ombre, puis j'ai enfourché ma machine, et au lieu de chercher à rejoindre l'auto, j'ai filé droit avenue des Ternes. Après avoir rangé ma moto le long du trottoir, j'ai guetté l'arrivée du véhicule que j'avais dû certainement devancer car je devais marcher à un train d'enfer. Je ne m'étais pas trompé dans mes prévisions. 5 minutes après, une auto franchissait la porte qui donne accès à l'allée de Verzy. La fille de Chandcock était au volant. Près d'elle se trouvait Gautret, le gardien du Louvre que Chandcock a pris à son service. J'ai eu le temps de repérer Bellegarde, qui, dans l'intérieur de la voiture, semblait ne pas emmener bien large. Alors, voilà, je suis venu vous prévenir tout de suite. « Parfait !» approuvait le bossu. « Dois-je avertir de nouveau la police que Bellegarde se trouve chez Chandcock ?»« Non, 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 non !» répliqua Luchner. Et avec un accent sinistre, il martela « Nous avons mieux à faire. » Puis d'un air mystérieux et menaçant, il ajouta « Demain soir, ils sauteront tous ensemble. Venez voir la petite surprise que je suis en train de leur ménager. » Et se dirigeant vers l'établi, Il s'empara d'une boîte métallique en forme de cube et qui portait à chaque angle de sa face supérieure quatre petites têtes de vis autour desquelles s'enroulaient des fils métalliques de 15 cm environ de longueur et reliés ensemble à leur sommet. « Ceci, expliquait Luchner, est une bombe de mon invention. Elle contient une charge d'explosifs capable de faire sauter une maison de 6 étages. » Avec précaution, il prit la bombe et l'introduisit à l'intérieur du compteur à gaz. Puis il s'empara d'une petite pendulette en forme de réveil qu'il plaça près de la bombe et il rejoignit l'extrémité du fil métallique à une autre vis placée sur le cadran du réveil juste à l'endroit d'une aiguille fixée sur la 10e heure. L'homme à la salopette le regardait manipuler cet engin de destruction et de mort. « Grâce à ce mécanisme d'horloge, déclarait Luchner, la bombe éclatera au moment que j'ai fixé. » Son complice observait, « Oui, mais encore faudra-t-il que Shancock soit chez lui. » Tout en poursuivant sa besogne, le secrétaire du baron Papillon affirma, « Il y sera. » Et après avoir refermé le compteur, il s'écria, « Demain soir, à 10 heures, poum !»« Monsieur Luchner, s'écria l'homme à la salopette, « Oh, vous êtes l'as des as !» Le lendemain, vers 4 heures de l'après-midi, Shancock, suivi de Jacques Bellegarde, de nouveau transformé en Cantarelli, sonnait à la porte de l'hôtel des Papillons. Le concierge s'en vint le rouvrir assez rapidement. Mais reconnaissant les deux personnages qui s'étaient déjà présentés la veille, il prit aussitôt une mine renfrognée qui exprimait clairement « Encore vous !» Shancock, nullement impressionné par ce peu favorable accueil, fit avec une courtoisie parfaite « Monsieur le baron Papillon ?» Le portier répliquait « Oh, monsieur le baron et madame la baronne sont sortis. » « Cependant, » reprenait le détective, et prenant dans son portefeuille un pneu qu'il avait reçu dans la matinée, il le tendit au concierge tout en disant « Veuillez prendre connaissance de ceci. » Le Cerbère s'empara du message et lut ce qui suit. Monsieur le baron Papillon fait savoir à Monsieur Shancock qu'il recevra aujourd'hui jeudi vers 4 heures. Ces lignes étaient suivies d'une signature absolument illisible. Le portier reprenait d'un air perplexe. Ben, c'est bien en effet l'écriture de Monsieur le secrétaire. Oh, sans doute Monsieur le baron aura-t-il oublié qu'il vous avait donné rendez-vous ? « Car je vous assure qu'il n'est pas là, pas plus que madame la baronne. Il y a 1 heure qu'ils sont partis en auto. Je ne sais même pas s'ils rentreront dîner. »« C'est incompréhensible, » murmura le détective. « Que voulez-vous que j'y fasse ?» grommelait le concierge. Shancock voulut insister. Mais le portier lui coupa la parole en proférant d'un air courroucé. « Mais puisque je vous dis que monsieur le baron n'est pas là ?» Et il referma la porte au nez des visiteurs. C'est bizarre, dit le grand détective au reporter. En effet, ponctuait le faux Cantarelli. Mais le grand limier reprenait aussitôt. Non, nous ne nous frappons pas. Je vous garantis que dès demain, je verrai le baron Papillon. Et il faudra bien qu'il me dise d'où il tient le grimoire. À la même heure, une voiture à bras, traînée par l'homme à la salopette et poussée par le bossu, camouflé en vieil ouvrier plombier, s'arrêtait devant la villa de Shancock. L'homme à la salopette s'arrêtait à la porte. Aussitôt, des aboiements de chiens s'élevaient et Gautret, fidèle et vigilant gardien, s'avançait, demandait aux arrivants à travers la grille de clôture « Qu'est-ce que vous voulez, vous autres ?» Luchner répliquait « Nous venons changer le compteur à gaz. » et à travers les barreaux, il tendit à Gautret un papier que le brave garçon lut avec la plus grande attention. Bandor et Vidocq, dans l'expectative, fixaient leurs yeux ardents sur Gautret, attendant des ordres. Celui-ci, au bout d'un instant, rendit au bossu le papier qui reproduisait d'une façon rigoureusement exacte la formule ordinairement usitée en pareil cas. Puis il ajouta, en ouvrant lui-même la porte, « Bon, c'est bon, vous pouvez entrer. » L'homme à la salopette retourna vers la voiture à bras, chargea le compteur sur son épaule et pénétra dans le jardin, suivi par le bossu qui portait son sac à outils en bandoulière. Après avoir imposé silence à ses chiens, qui commençaient à grogner d'une façon peu rassurante, Gautret se dirigea vers la fenêtre du jardin qui était ouverte et à travers laquelle on apercevait la silhouette opulente de Marie-Jeanne en train de préparer son dîner. « Marie-Jeanne, Marie-Jeanne !» appelait Gautret. « Qu'est-ce qu'il y a ?» répliqua le cordon bleu sans quitter son fourneau. « Viens un peu !»« Et mon bœuf mode, viens, te dis-je » Marie-Jeanne, tout en bougonnant, rejoignit son mari. Celui-ci, tout en lui désignant l'homme à la salopette et le bossu, lui ordonna « Ces hommes viennent pour changer le compteur, conduis-les à la cave. Et mon bœuf, tu sais bien que je ne dois pas bouger d'ici. » Marie-Jeanne objectait « Il y a une panne d'électricité. »« Eh bien, répliquait Gautret, prends une lanterne. » « Bon, il ne pouvait pas venir plus tôt !» fit Marie-Jeanne en rentrant dans la maison. Un instant après, Marie-Jeanne reparaissait sur le seuil, son falot à la main. « Venez !» dit-elle d'un ton autoritaire. « Et puis les pêchons, je n'ai pas envie de laisser brûler mon bœuf mode. Un bon morceau de viande que le boucher a tout exprès découpé pour moi. » Tous trois descendirent à la cave. Marie-Jeanne conduisit les deux hommes jusqu'au compteur et, pressée de retourner à son fourneau, elle dit « Je vous laisse, je vais m'occuper de mon dîner. » Et, passant la lanterne au bossu, elle s'empressa de regagner l'escalier. L'homme à la salopette déposa le compteur à terre. Le bossu, tout en s'éclairant avec le falot, examina l'objet qu'il devait remplacer. Puis, rejoignant son compagnon, il lui dit « Allez, au travail !» L'homme à la salopette remarquait « Mais avec tout ça, la villa va être privée de gaz. »« Oh ça !» fit Luchner en haussant les épaules. « Mais vous me prenez donc pour un enfant. Je vais brancher la canalisation directement sur la conduite. Tant pis pour la compagnie du gaz si elle y perd quelques mètres. » Écoute assez cher à ses abonnés. » Et prenant dans son sac à outils une clé anglaise, il commença à déboulonner le compteur. Tandis que les complices de Belphégor se livraient à cette sinistre besogne, Chantecoq et Cantarelli rentraient dans la villa. Chantecoq, en traversant le jardin, lançait à Gautret. Rien de nouveau. Non, monsieur. Enfin, ça veut dire que si. Quoi donc? Bien, des employés du gaz qui sont venus changer le compteur. Comme ils avaient leurs papiers en règle, je les ai laissés descendre dans la cave avec Marie-Jeanne. Ben, tu as bien fait. Le détective et le journaliste rentrèrent dans la maison et se rendirent directement dans le studio où Colette était en train de feuilleter l'histoire du Louvre. À leur vue, elle se leva et s'enfuit vers eux. « Rien de nouveau ?» demanda-t-elle avec une expression de vif intérêt. Chantecoq répondit « Non, le baron Papillon n'était pas chez lui. » Et tout de suite, il se dirigea vers son bureau, au milieu duquel une enveloppe à son adresse, mais sans timbre, avait été déposée. Il la décacheta aussitôt. C'était une carte du baron Papillon qui le prévenait qu'obligé de s'absenter tout l'après-midi pour une affaire imprévue, il prévenait M. Chantecoq qu'il passerait chez lui le même soir vers 10 heures. Chantecoq, le front soucieux, demanda à sa fille « Il y a longtemps qu'on a apporté cette lettre, une demi-heure environ. » Silencieusement, le détective passa la carte à Bellegarde, qui la lut à son tour. « De plus en plus bizarre, n'est-ce pas ?» lançait le grand limier. « En effet !» Chantecoq réfléchit un instant, puis il gagna la fenêtre et l'ouvrant, il appela. « Pierre !» À ce moment, l'homme à la salopette qui portait sur son dos le compteur qu'il venait de remplacer et le bossu, son sac en bandoulière, traversait le jardin et se dirigeait vers la sortie. « Pierre !» répéta Chantecoq d'une voix vibrante, car le gardien, occupé à ouvrir la porte aux deux faux gaziers, n'avait pas entendu le premier appel du détective. Abandonnant les deux personnages qui s'empressèrent de gagner la rue et de déguerpir avec leur voiture à bras, Gautret accourut vers son patron, qui lui fit signe de le rejoindre dans le studio. Dès qu'il apparut, le détective, l'œil brillant, les narines dilatées, lui renouvela la question qu'il avait déjà posée à sa fille. « Qui a apporté cette lettre ?»«
Je ne sais pas, monsieur, » répliquait Gautret, « je l'ai trouvée sous la porte. »«
Vous étiez cependant dans le jardin ?»
« Oui, monsieur. »«
Avec les chiens ?»«
Avec les chiens. » »«
Mais comment se fait-il que vous n'ayez rien vu et qu'il n'ait pas aboyé ?»«
Ben, pour ce qui est de moi, monsieur, comme je faisais les 100 pas afin de me dégourdir les jambes, il est possible, il est même certain que le type qui a apporté cela aura glissé cette lettre pendant que j'avais le dos tourné. » Quant aux chiens, ils ont fait leur métier, ils ont hurlé. C'est ce qui m'a fait me retourner, c'est alors que j'ai vu l'enveloppe. Les chiens étaient déjà à la porte, debout, contre la grille. J'ai regardé au dehors, il n'y avait personne. Alors j'ai pris la lettre et je l'ai remise à Marie-Jeanne, qui a dû la déposer sur le bureau de monsieur.
« Bien, » fit Chantecoq en appuyant sur le bouton d'une sonnerie électrique. Colette allait l'interroger, mais d'un geste bref, son père lui imposa silence. Marie-Jeanne venait d'apparaître. Tout de suite, le détective lui demandait « C'est vous qui avez accompagné à la cave les hommes qui venaient changer le compteur ?»«
Oui, monsieur. Vous êtes resté avec eux ?»« Oh, il n'y a qu'un petit moment, je suis remonté à cause de mon bœuf motte qui était sur le feu. »
Chantecoq fronça les sourcils. La bonne madame Gautret reprenait.
« J'ai cru que je pouvais le faire sans inconvénient. Les employés du gaz sont déjà très bien. »
Le détective répliquait d'un air grave. « Oui, mais quand ce sont les employés du gaz ?» Marie-Jeanne, pressentant qu'elle avait fait une lourde gaffe et peut-être pire encore, baissa le nez. « Allons voir cela, » décidait le détective d'un air résolu. Et il ajouta, « Vous, Pierre, reprenez votre faction, et vous, Marie-Jeanne, accompagnez-moi. Car j'aurai sans doute des questions à vous poser, il faut que vous soyez là pour me répondre. »
« L'électricité est revenue, » déclarait la commère, navrée à l'idée d'être de nouveau arrachée à ses fourneaux.
« Cela ne fait rien, » posait Chantecoq sur un ton qui n'admettait pas de réplique.
« Et mon bœuf, il cuira sans vous. »« Mais il cuira trop. »«
Eh bien, nous mangerons moins. » Quelques secondes après, Chantecoq, sa fille, le reporter et la cuisinière pénétraient dans la cave. Le détective tourna un commutateur. Une clarté se répandit, très suffisante pour permettre au limier de procéder à ses investigations. Celui-ci se dirigea tout droit vers le compteur, contre lequel il appuya son oreille.
Et dans un profond silence, il écouta le très léger tic-tac du réveil parvint à son oreille. Il écouta encore, puis se tournant vers Jacques, Colette et Marie-Jeanne, il scanda froidement. « Il y a une bombe là-dedans. »«
Une bombe ?»
répéta Marie-Jeanne effrayée. Et elle se laissa tomber sur une caisse à savon qui s'effondra sous son poids. Tandis que le reporter l'aidait à se relever, Chantecoq, avec ce merveilleux sang-froid qui ne l'abandonnait jamais, même au cours des situations les plus périlleuses, dit à sa fille « Va vite me chercher la boîte B qui se trouve dans mon laboratoire, dans le tiroir de l'armoire numéro 3. » La jeune fille obéit aussitôt.
« mon Dieu !» se lamentait Marie-Jeanne, « pourvu que nous ne sautions pas pendant ce temps-là. »
« Ne dites donc pas de bêtises, » proférait Chantecoq. « Cette bombe, j'en suis sûr, a été réglée de telle sorte qu'elle ne doit éclater qu'à une heure où celui qui l'a fabriquée est bien sûr que je serai chez moi, c'est-à-dire pendant la nuit. » « C'est la logique et l'évidence même, » affirmait Bellegarde. Marie-Jeanne reprenait. « Monsieur Chantecoq, pardonnez-nous à mon mari et à moi, je vous assure que Pierre fait pourtant bien attention, et moi aussi. On fait tout ce qu'on peut, je vous jure. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Poursuivait le cordon bleu. On ne peut pas penser à tout. Ces beaux hommes-là étaient si naturels. Je suis certaine que vous-même, qui êtes le plus malin de tous les malins, vous les auriez pris comme mon mari et moi pour les ouvriers du gaz.
Vous dites qu'ils étaient deux ? Interrogeait le détective.
« Oui, monsieur, un noireau en salopette bleue avec une petite moustache et... »«
Tiens, tiens, » fit Jacques. Marie-Jeanne continuait.
« Et un bossu ?»«
Un bossu ?» répéta le journaliste.
« Oui, qui portait son sac à outils sur son dos. »
Chantecoq n'écoutait plus la commère. D'un regard, il interrogeait Bellegarde, qui lui répondait aussitôt.
« Il n'y a pas l'ombre d'un doute, ces deux hommes qui ont apporté ici ce compteur sont bien ceux qui ont voulu m'assassiner. »
Colette reparaissait avec la boîte que son père l'avait envoyée chercher. Elle contenait plusieurs outils, à l'aide desquels, rapidement, le détective démonta le compteur, tout en ayant soin de laisser la canalisation branchée sur le tuyau d'arrivée.
« Je m'arrangerai avec la compagnie, » fit-il, « car il ne faut pas que cette bonne Marie-Jeanne manque de gaz. » Après avoir placé le compteur sur son épaule, il quitta la cave, suivi par Colette, Jacques et Marie-Jeanne, qui avaient eu soin de reprendre la boîte à outils. Il gagna aussitôt son laboratoire, déposa le compteur sur une table, et avec une dextérité remarquable, il dévissa les écrous qui maintenaient la paroi intérieure. « Vous voyez que j'avais raison ? » fit-il en désignant à sa fille et au journaliste l'intérieur du compteur où Luchner avait déposé la bombe et la pendulette. Et tout en désignant l'aiguille d'arrêt, il ajouta « Mais je ne me suis pas trompé !» Belphégor avait bien décidé de nous faire sauter à 22h. Colette, en un geste instinctif, saisit la main de Jacques. Son père reprenait en souriant. « Très ingénieux, ce petit appareil !» Et avec un calme étonnant, en même temps qu'une adresse merveilleuse, il commença à enlever, à l'aide d'une pince, les fils qui reliaient la pendulette à la bombe. Tandis qu'il achevait son délicat travail, Colette reprenait « Oh, nous l'avons échappé belle !» Jacques s'écriait « Ben, tout est bien qui finit bien, et nous n'avons plus qu'à attendre la visite du baron Papillon !»« Oh, le baron Papillon !» lança Chantecoq. « J'ai l'idée que nous ne le verrons pas ce soir. »«
Et pourquoi ?» firent simultanément les deux jeunes gens.
Chantecoq ne répondit pas à leurs questions. Et comme s'il poursuivait uniquement sa pensée, il martela. Mais demain, il faudra bien qu'il me livre son secret. Chapitre 6, où le fantôme reparaît. Tandis que ces événements se déroulaient chez Chantecoq, un taxi s'arrêtait devant l'hôtel de Mademoiselle Desroches. Une femme en descendait en grand deuil. Ses cheveux, non coupés et même abondants, s'échappaient en cascade d'or sous son chapeau de crêpe, autour duquel flottait un long voile de deuil. Elle n'avait rien d'artiste, de moderne, ni même de parisien. Elle paya le chauffeur. Sans doute dut-elle lui donner un bon pourboire, car il mit aussitôt pied à terre, et après avoir aidé la voyageuse à descendre de voiture, il déposa sur le trottoir devant la porte une valise. Et tout en tenant à la main une couverture soigneusement roulée dans un porte-manteau en cuir jaune, il attendit que la visiteuse eût sonné et qu'on lui eût ouvert pour regagner son siège. Pendant ce temps, dans le grand salon, Maurice de Thouars, qui portait sur son visage les marques d'un profond chagrin, racontait au baron et à la baronne Papillon, figés en une attitude de consternation savamment étudiée, les derniers moments de Simone. Monsieur de Thouars expliquait « Jusqu'à la minute suprême, notre pauvre ami a cru revoir ce maudit fantôme. » La baronne eut un sursaut d'effroi. Quant à son mari, il crut devoir accentuer encore sa mine apitoyée, et il se préparait à entamer un panégyrique ému de la morte, lorsque le valet de chambre apparut annonçant « Madame Mauroy vient d'arriver. » Monsieur de Thouars se leva en disant « Ah, c'est la sœur de Simone. » « Mademoiselle Desroches avait donc une sœur ?» s'exclamait la baronne. « Oui, mariée en province, elle se voyait très peu. » « Nous allons nous retirer, » déclarait M. Papillon. « Non, non, restez là, au contraire, » protestait M. de Thouars. « Madame Mauroy, j'en suis sûr, sera très heureuse de faire votre connaissance. » Ils gagnèrent l'antichambre où Madame Mauroy attendait, et tout en s'inclinant devant elle avec un profond respect, il fit « Comte Maurice de Thouars. » La dame en noir répondit à son salut avec beaucoup de dignité. Son interlocuteur précisait « Mademoiselle, votre sœur voulait bien m'honorer de son amitié. » Et se tournant vers Juliette et le valet de chambre, qui près de la valise et du porte-manteau attendait des ordres, il reprit « Montez les bagages dans la chambre que Mademoiselle Bergen a fait préparer pour Madame Mauroy. » Puis, avec beaucoup de déférence, il invita celle-ci à entrer au salon. À sa vue, les papillons se relevèrent, accentuant leur tristesse de commande. Maurice de Thouars présentait « Baron et baronne Papillon, oh de bons, de vieux amis de Mademoiselle Desroches. » Madame Papillon s'avançait avec empressement vers la nouvelle venue, affirmant d'une voix pleurade « Oh, croyez, madame, que mon mari et moi nous prenons une part bien vive à votre douleur. » Madame Mauroy, en proie à une peine qu'elle parvenait difficilement à contenir, remercia le couple d'un geste ému. Puis, s'adressant à Maurice de Thouars, elle dit « J'ai reçu votre télégramme. » Un sanglot lui coupa la parole. Monsieur de Thouars la fit asseoir sur un canapé. Et les yeux remplis de larmes, elle reprit avec effort « Cette pauvre Simone !» Nous ne nous étions pas revus depuis longtemps. Nous n'avions ni les mêmes idées, ni les mêmes façons de vivre, mais je lui avais gardé une profonde affection. Mais elle me parlait souvent de vous. « Je voudrais la revoir, » déclarait Madame Mauroy. Monsieur de Thouars expliquait « Elle repose dans son atelier, ainsi qu'elle l'a voulu. Je vais vous y conduire. » Le comte offrit son bras à Madame Mauroy.
La baronne implorait. Est-ce que vous nous permettez, à nous aussi ? Monsieur de Thouars fit un signe affirmatif. Et tous les quatre, ils se dirigèrent vers l'atelier. Lorsqu'ils s'y présentèrent, Mademoiselle Bergen était en prière auprès de Simone. Aussitôt, elle se leva et s'en fut vers Madame Mauroy, dont elle étreignit la main. Puis, tandis que les trois autres personnages demeuraient discrètement à l'écart, elle l'emmena près du divan. Madame Mauroy contempla douloureusement sa sœur. « Elle n'est guère changée, » murmura-t-elle. Elle s'approcha de la morte et appuya ses lèvres contre son front. Puis, s'agenouillant, elle se mit à prier. « Pardon, » dit à voix basse Madame Papillon à son mari, « ce spectacle me fait trop de mal. » Maurice de Thouars les reconduisit jusqu'à la porte d'entrée. Et après avoir subi une dernière fois leurs protestations d'amitié et leurs compliments de condoléances, ils regagnèrent le salon et appuya sur le bouton d'une sonnerie électrique. Juliette apparut. Maurice de Thouars lui demanda « Vous avez monté les bagages ?»« Oui, monsieur le comte, mais je n'ai pas pu ouvrir la valise car Madame Mauroy a conservé la clé. »« Bien, je vous remercie. » Madame Mauroy reparut, s'appuyant au bras de Mademoiselle Bergen. Elle était tout en larmes. « Voulez-vous, proposa la dame de compagnie, que je vous accompagne jusqu'à votre chambre ?»« Oui, je veux bien. » Maurice de Thouars s'avançait, déclarant, lui désignant Juliette, « Voici la femme de chambre de Simone. » Mademoiselle Bergen s'empressait d'ajouter, « Une excellente fille très dévouée qui, j'en suis sûr, aura très grand soin de vous. » « Oh, je suis brisé !» déclarait Madame Mauroy. « Eh bien, venez !» invitait la Scandinave, « vous allez prendre un peu de repos. »« Et moi, » déclarait Monsieur de Thouars, « je vais veiller notre ami. » Quelques heures après, dans le grand salon de l'hôtel d'Auteuil, Elsa Bergen tenait compagnie à Madame Mauroy, à laquelle, tandis que Juliette leur servait le thé, elle racontait les derniers moments de sa sœur, lorsque le valet de chambre apparut, annonçant « Monsieur le directeur de la police judiciaire est là. » La Scandinave se leva, un peu surprise, tandis que Madame Mauroy lui demandait « Mais que vient-il faire ici ?»« Ben, je l'ignore, mais il me semble difficile de les conduire. » « Toutefois, si vous désirez ne pas le voir, je puis le faire entrer dans une autre pièce. »« Non, refusait Madame Mauroy, je préfère être là. »« Maintenant que vous m'avez réconforté de vos consolations si affectueuses, je me sens assez courageuse pour affronter toutes les épreuves. » La demoiselle de compagnie donna l'ordre à Dominique d'introduire M. Ferval. Celui-ci, après avoir salué Elsa Bergen, dirigea son regard vers Madame Mauroy, qui, accablée par sa profonde douleur, était restée assise. La Scandinave murmurait à l'oreille du haut fonctionnaire, « C'est la sœur de Mademoiselle Delroche. Elle a beaucoup de chagrin. » Monsieur Ferval s'inclina respectueusement devant Madame Mauroy, qui lui répondit d'un léger signe de tête. Puis, s'adressant à la demoiselle de compagnie, il fit d'un air grave « Je suis chargé d'une mission très pénible. » Elsa Bergen le considéra avec étonnement. Quant à Madame Mauroy, elle semblait se désintéresser entièrement de ce qui se passait autour d'elle. Le directeur reprenait « Bien que le médecin de l'état civil ait déclaré naturel le décès de Mademoiselle Simone Desroches, certains faits assez troublants dont nous venons seulement d'avoir connaissance nous ont donné à penser qu'il était au contraire des plus suspects. Monsieur, que me dites-vous là ?
S'étonnait la Scandinave avec émotion. Je vous assure au contraire que notre pauvre ami a succombé à une affection cardiaque.
Ce n'est pas l'avis de monsieur le juge d'instruction.
Mais peut-on savoir au moins sur quoi ce magistrat base sa conviction ?
Ah, je regrette de ne pouvoir vous répondre. L'instruction, jusqu'à nouvel ordre, doit se poursuivre dans le plus grand mystère. Tout ce que je puis vous dire, c'est que le parquet a donné l'ordre de sursoir à l'inhumation afin qu'il soit procédé à un examen médical.
C'est-à-dire à une autopsie ?
Oui, qui doit avoir lieu dans le plus bref délai.
À ces mots, Madame Mauroy se redressa tout à coup et le visage hagard, elle s'écria « Ma sœur, ma pauvre sœur, non, pas cela, pas cela !»
Avec beaucoup de déférence, le directeur de la police s'écriait « Hélas, madame, la décision du parquet est formelle !»
Madame Mauroy implorait « Laissez-la voir encore cette nuit !»
Non, c'est bien difficile, je dirais même impossible.
Monsieur, je vous en prie, je vous en supplie. Je viens de la voir, elle est encore si belle. Oh oui, laissez-la moi jusqu'à demain.
Très impressionné par ce désespoir qui se manifestait d'une façon si touchante, le haut fonctionnaire décidait.
C'est entendu, madame, et je m'en voudrais d'ajouter encore à votre peine. Je vais prendre les mesures nécessaires pour que le médecin légiste n'intervienne que demain dans la matinée.
Oh, « Je vous remercie, monsieur, » fit Madame Mauroy, qui se laissa tomber en sanglotant sur un canapé. Après l'avoir salué, M. Ferval se retira, reconduit par Elsa Bergen, tandis que Madame Mauroy continuait à pleurer, la tête entre les mains. Vers 11 heures du soir, tout semblait dormir dans la maison d'Auteuil. Aucun ray de lumière ne filtrait à travers les persiennes des fenêtres qui donnaient sur la rue, ni de celles qui s'ouvraient sur le jardin. Seule l'entrée du vestibule était faiblement éclairée. Depuis un long moment déjà, les domestiques, à l'exception de Juliette, qui avait demandé qu'on lui permît de veiller une dernière fois sa maîtresse, avaient regagné leur chambre. Toute la vie de cette demeure qui semblait déserte, presque abandonnée, s'était concentrée dans l'atelier autour de la morte. En effet, Madame Mauroy, Mademoiselle Bergen et Maurice de Thouars étaient réunis autour du divan sur lequel reposait toujours la dépouille mortelle de Simone parmi les fleurs renouvelées. Dans un coin de la vaste pièce, discrètement à l'écart, la femme de chambre priait. Découvrant sur le visage douloureux de Madame Mauroy quelques traces de fatigue, Mademoiselle Bergen lui dit « Vous devriez aller prendre un peu de repos. Laissez-moi encore auprès d'elle, » soupirait la sœur de Simone. « Il ne faut pas user vos forces, » conseillait Monsieur de Thouars. D'autant plus, souligne la demoiselle de compagnie, que vous en aurez encore besoin.
C'est vrai, reconnaissait la jeune femme.
Et tout à coup, éclatant en sanglots, elle scanda.
Encore je pense que demain. Oh, c'est trop abominable.
Dites, monsieur de Thouars, vous qui connaissez tant de monde à Paris, vous ne pourriez pas obtenir que le renonçât à cette chose affreuse.
C'est malheureusement impossible.
Ma sœur, ma pauvre Simone, reprenait Madame Mauroy, que je l'embrasse une dernière fois.
Elle s'approcha de la morte, appuya ses lèvres contre son front, puis s'emparant d'une des roses sous lesquelles elle disparaissait presque entièrement, elle la glissa dans son corsage en murmurant « Je croyais pas, l'aimer tant. »
Et se tournant vers la Scandinave, elle ajouta
« Je la revois encore toute petite. J'étais pour elle comme une seconde maman. Elle avait 8 ans de moins que moi.
Pourquoi faut-il que l'existence nous ait ainsi séparés? Et penser que c'est fini, que je ne la reverrai plus jamais, jamais. Elle chancela comme si elle était prête à s'évanouir. Avec une douce mais ferme autorité, Mademoiselle Bergel ordonnait « Ne restez pas ici plus longtemps, vous allez vous rendre malade bien inutilement. Songez à votre mari, à vos enfants que vous avez laissés là-bas. » « Oui, vous avez raison, » approuvait Madame Morois, un peu calmée. Monsieur de Thouars proposait « Permettez-moi de vous accompagner jusqu'à votre chambre. » Madame Morois s'empara du bras qu'il lui offrait. Juliette s'avançait, proposant « Si madame a besoin de mes services... »« Mais oui, allez, ma fille, » appuyait Mademoiselle Bergen. « Je vais rester auprès de notre amie. Tout à l'heure, vous viendrez me rejoindre. » Madame Morois eut un dernier regard vers sa sœur. D'une main, elle lui adressa un long baiser, celui d'un suprême adieu. Puis elle sortit dans le jardin avec Monsieur de Thouars. Juliette courut vite dans le vestibule, gravit l'escalier, gagna le palier du premier étage, ouvrit la porte de la chambre qui avait été réservée à Madame Morois et donna l'électricité. Bientôt, Madame Morois et Monsieur de Thouars apparaissaient sur le seuil. Monsieur, fit la sœur de Mademoiselle Desroches, je ne saurais vous dire à quel point je suis touchée des attentions dont vous m'entourez, Mademoiselle Bergen et vous. Mais n'est-ce pas tout naturel? Croyez que je ne l'oublierai pas. Monsieur de Thouars effleura d'un baiser respectueux la main que lui tendait la jeune femme, puis fit quelques pas dans la chambre. Madame veut-elle que je l'aide à se déshabiller? Proposa Juliette. Non, merci, ma fille. Retournez auprès de ma pauvre sœur. La femme obéit et quitta la chambre. En traversant le vestibule, elle croisa Monsieur de Thouars qui lui dit « Vous préviendrez, Mademoiselle Bergen, que je suis toujours là et que dès qu'elle se sentira fatiguée, j'irai la remplacer. » « Mais, monsieur le comte, observait Juliette, je resterai bien toute seule. » « La mort ne vous effraie donc pas ?»« Non, monsieur le comte, non. Et puis, comme disait si bien le bon vieux curé de mon pays, on n'est jamais seul avec les défunts, il y a toujours leur âme. » « Eh bien, allez, je vais prendre un peu de repos. D'ailleurs, je ne tarderai pas à vous rejoindre. » Monsieur de Thouars pénétra dans le grand salon et s'installa dans un fauteuil. Une grande expression de douleur et de lassitude contractait son masque, auquel il s'efforçait habituellement de donner une expression d'impassibilité qu'il jugeait de bon ton. Sans doute avait-il aimé vraiment Simone, et, bellâtre qui avait fait pleurer tant de beaux yeux, souffrait-il cruellement à son tour? Et tandis que Juliette gagnait l'atelier, visiblement brisée, il ferma les yeux, en l'espoir d'un sommeil qui lui ferait momentanément oublier sa détresse. Juliette, un instant, resta à le contempler à travers la baie qui accédait au jardin. « Comme il l'aimait, se dit-elle, et combien il doit être malheureux ?» Puis elle se dirigea vers l'atelier. Après avoir fait quelques pas, elle s'arrêta. Il lui avait semblé entendre comme un bruissement de feuilles assez prolongé, immédiatement suivi d'un silence absolu. Elle attendit un instant, l'oreille tendue, mais le silence continuait à planer au-dessus de l'obscurité environnante. Envahie d'une instinctive angoisse, elle hâta le pas et traversa presque en courant l'allée du jardin qui conduisait de la maison à l'atelier. Lorsqu'elle pénétra dans la vaste pièce, dont les plafonniers, habilement et artistement disposés, semaient autour d'eux une vive et radieuse clarté,
Elsa Bergen était en train de recueillir quelques roses qui avaient glissé du divan sur le tapis. S'apercevant du trouble qui agitait la femme de chambre, Mademoiselle Bergen lui demanda « Qu'y a-t-il, Juliette? Est-ce que Madame Morois serait souffrante ?»« Non, mademoiselle, c'est... » Elle s'arrêta comme si elle n'osait parler. « Mais voyons, parler !» invitait la Scandinave. Juliette se décidait à dire « Mademoiselle, je viens d'entendre dans le jardin un drôle de bruit. »«
Quoi donc ?»« On aurait dit que quelqu'un marchait dans le bosquet, par où a disparu le fantôme. »
Et toute pâle, elle ajouta
« Ou si c'était encore lui ?»«
Allons, ma petite, reprenait la demoiselle de compagnie, vous n'allez pas vous mettre de pareilles idées en tête. » Le fantôme ne reparaîtra plus ici. D'abord, M. Chantecoq nous l'a affirmé. Et puis, que viendrait-il y faire?
Elsa Bergen avait à peine prononcé ces mots que subitement les plafonniers s'éteignirent et l'atelier ne se trouva plus éclairé que par la lueur des bougies placées près de Simone. Les deux femmes eurent un sursaut, puis se turent, immobiles, les yeux rivés sur une petite porte qui, placée au fond du hall et dissimulée par une tenture, s'ouvrait lentement d'abord, puis brusquement. Un cri d'épouvante leur échappa. Le fantôme venait de se profiler sur le seuil. Tournant sur elle-même, la Scandinave s'évanouit. Folle de terreur, d'une voix qui s'étranglait dans sa gorge, Juliette voulut appeler au secours. Elle n'en eut pas le temps. Bondissant vers elle, Belphégor lui assénait sur la nuque un coup de la terrible matraque, et la malheureuse s'effondrait assommée. Alors le fantôme s'approcha du corps de Simone, le serra dans ses bras et disparut avec lui derrière la petite porte par laquelle il était entré. Juliette, qui n'avait pas entièrement perdu connaissance, voulut se relever, mais elle n'en eut pas la force, et se traînant sur les genoux jusqu'à la porte qui donnait sur le jardin, au prix d'un grand effort, elle parvint à l'entrebâiller et d'une voix déchirante, elle lança dans la nuit par trois fois ce cri « Au secours! Au secours! Au secours !» Monsieur de Thouars, qui commençait à sommeiller, se redressa d'un bond et s'élançant dans le jardin, il se précipita dans l'atelier. Alors, s'approchant à lui, Juliette, folle de terreur, râla. « Le fantôme vient d'enlever mademoiselle. » Sidéré, Maurice de Thouars dirigea ses yeux vers le divan, sur lequel on voyait encore, parmi les fleurs en désordre, la trace du corps que Belphégor venait d'enlever. Et se penchant vers la femme de chambre, il voulut l'interroger. Mais la brave fille, à bout de force, s'écroula sur le parquet, tandis que Belphégor, emportant la morte, fuyait dans les ténèbres.